Voilà, bon, bah, on va pouvoir commencer ce débat. Bien sûr, on remercie les militants du Parti communiste de nous donner la possibilité une nouvelle fois d'avoir un stand à la fête de l'UMA et de pouvoir débattre de nos idées fondamentales, hein, avec les débats sur l'histoire de la révolution russe et son actualité. Et puis là, ce débat donc sur la situation actuelle, hein, donc face à l'offensive extrêmement brutale du patronat et du gouvernement, ben, quelle politique pour les travailleurs. Et là-dessus, je passe tout de suite la parole à notre camarade Nathalie Arthaud.
Eh bien, bonjour à tous. Nous sortons d'une année de campagne électorale, d'une année de cirque électoral, on pourrait dire, où on nous a fait les promesses habituelles, le cirque du renouveau, votez pour moi, hein, plus rien ne sera jamais comme avant. Et puis au bout du compte, on se retrouve avec un président, Macron, qui a repris le boulot exactement au point où Hollande l'avait laissé avec la loi El Khomri. Et on se retrouve, nous, à nouveau engagés dans un bras de fer pour défendre nos intérêts de travailleurs. Alors ce bras de fer, eh bien, nous l'avons engagé mardi dernier, le 12 septembre. Au contraire de ce que l'on a entendu dans tous les médias, c'était une réussite. C'était une réussite et ça l'a été, y compris contre. Je dis que c'était une réussite parce que vous avez vu les chiffres, les vrais chiffres, hein, c'est-à-dire y compris quand on prend les chiffres de la préfecture et qu'on les compare à la première mobilisation contre la loi El Khomri qui s'est déroulée en mars 2016, eh bien il y avait exactement le même nombre de manifestants dans la rue. Donc oui, c'était une réussite qui est d'autant plus remarquable que cette mobilisation a quand même eu lieu contre certaines directions syndicales qui ont carrément sonné la démobilisation. Je veux bien sûr parler du dirigeant de Force ouvrière et de la CFDT. Alors, cette mobilisation, c'était un premier pas important, parce qu'il fallait absolument dénoncer ce mensonge gouvernemental selon lequel tout le monde était d'accord avec ces prétendues réformes. Mais c'est bien sûr qu'un premier pas, hein, pour pouvoir peser, il faut évidemment que cette protestation, elle s'amplifie, qu'elle se développe, et bien sûr, nous ferons tout ce que nous pourrons, hein, d'ici jeudi 21, pour qu'on se retrouve encore plus nombreux dans la rue, et que justement, cette mobilisation se développe. Et Lille sera avec nous, alors, si je comprends bien. 10 000 le 12,
ça fait 8
km. Et y compris dans des petites villes comme Compiègne, comme, enfin, des petites villes, excusez-moi, je ne veux blesser personne, pardon, dans des villes moyennes, comme Compiègne, j'ose plus, eh bien c'était réussi, hein, voilà, c'était réussi, voilà. Alors nous allons bien sûr militer pour que cette mobilisation, elle s'étende, et puis nous allons dire et redire sans relâche qu'il n'y a rien d'autre à attendre de ce gouvernement que des coups. Et quand on entend un certain nombre de responsables syndicaux ou même un certain nombre de responsables politiques dire qu'il faut attendre les textes finaux pour se positionner, ça, c'est vraiment endormir les travailleurs. Il y a, parce que tous ces coups, il les a annoncés, Macron. Alors la réalité, c'est qu'il n'y a pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Dans la réforme, bien sûr, je ne parle même pas, hein, de cette réforme, de cette contre-réforme, hein, sur le code du travail, mais dans ce qui va se passer sur l'assurance chômage, dans ce qui va se passer sur la formation, dans ce qui va se passer sur les retraites, il n'y aura que des coups. pour les travailleurs. Alors oui, il faut préparer le monde du travail au bras de fer qui sera inévitable. Si nous ne nous battons pas, eh bien, il va nous en faire baver. Donc voilà ce qui est devant nous, c'est d'engager le combat à la hauteur nécessaire. Et je veux souligner un aspect, c'est que c'est d'autant plus important que le monde ouvrier n'est pas le seul à être attaqué. Il y a beaucoup d'autres catégories sociales qui subissent la situation et qui vont subir la politique de Macron. Il y a bien sûr les artisans, il y a les commerçants qui ont leurs difficultés, il y a un tas d'autres catégories sociales, y compris qu'on entend bouger les agriculteurs. Hier, apparemment, il y a eu une mobilisation des policiers qui sont mécontents de leurs conditions de travail. Enfin, il y a un tas de catégories sociales qui peuvent être mécontentes et qui seront mécontentes de la situation et qui ont des revendications et qui se battront. Et ces catégories sociales, elles se battront même peut-être mieux que les travailleurs, parce que souvent, elles n'ont pas de syndicats pour les freiner dans leur colère. Et cette colère, eh bien, elle peut s'exprimer. Alors on peut se dire, bon, bah, finalement, c'est très bien tout ça. Ça participe de la contestation générale. C'est que du bon. Eh bien non, c'est pas comme ça que les choses se présentent. Parce que s'il y a effectivement des mobilisations puissantes de ces catégories sociales, et que Macron soit obligé de reculer, eh bien vous pouvez être sûr que c'est à nous qu'il fera payer, à nous les travailleurs, à nous les plus pauvres, à nous les exploités, qu'il fera payer ce qu'il aura été obligé de lâcher à ces catégories sociales. Je dis ça parce que déjà aujourd'hui c'est sa politique. Sa politique consiste à opposer le monde du travail, la classe ouvrière, eh bien aux artisans, aux TPE, PME. Vous avez vu comment il justifie la réforme contre le dynamitage du code du travail. Au nom des TPE et des PME, au nom des difficultés des petites entreprises. C'est un alibi. C'est un alibi pour le gouvernement. Parce qu'en fait, cette loi, elle est faite d'abord pour les grands groupes. Quand on s'attaque aux droits des travailleurs, c'est d'abord les patrons qui embauchent, qui emploient le plus de salariés, qui sont les bénéficiaires de ces réformes. Donc la réalité, c'est que c'est une réforme qui correspond profondément aux intérêts du grand patronat et de la bourgeoisie. Mais regardez comment les artisans et les commerçants, eh bien, tombent dans le panneau. Alors oui, cette opposition-là, eh bien, le gouvernement, il va en jouer. Il va opposer les travailleurs aux petits artisans, aux commerçants. Il va y compris opposer les travailleurs actifs aux chômeurs. Il oppose déjà les travailleurs aux retraités. Donc il va jouer de cette politique-là. Et si il y a effectivement des manifestations, des mobilisations de ces catégories sociales qui sont liées d'une façon ou d'une autre à la bourgeoisie, à la propriété privée, à l'ordre capitaliste, eh bien ça n'ira pas dans le bon sens. Ça ira dans un sens réactionnaire, ça renforcera la droite. Alors voilà pourquoi il est d'autant plus important, urgent, que les travailleurs ne regardent pas les autres catégories protester, mettre en avant leurs intérêts en restant muets, qu'ils ne les regardent pas faire sans eux-mêmes se battre pour leurs intérêts, pour faire entendre leur propre classe sociale. Je voudrais insister aussi sur un autre point. L'offensive contre les travailleurs dépasse les choix qui sont faits par Macron. Ah, bien sûr, Macron, c'est un serviteur zélé de la bourgeoisie, il n'y a pas de problème. Il l'était quand il travaillait chez Rothschild, il l'est maintenant quand il est président de la République. C'est le président de la bourgeoisie qui a mis en place un gouvernement bourgeois. Là-dessus, il n'y a pas photo. Mais l'offensive contre le monde du travail, elle est d'abord le fait de la bourgeoisie. Elle est d'abord le fait de cette classe qui domine l'économie et qui mène une lutte de classe acharnée contre les ouvriers, contre les employés. Pour accroître cette exploitation et son parasitisme sur l'économie, on voit dans toutes les entreprises des attaques de toutes sortes, l'augmentation bien sûr des cadences, des licenciements, des suppressions d'emplois, l'allongement du temps de travail. Cette aggravation de l'exploitation, elle est vécue par tous les salariés. D'ailleurs, salariés du privé, mais aussi salariés du public. Donc cette offensive, elle est inscrite dans le système lui-même. C'est une offensive contre le monde du travail qui est inhérente, je dirais, au système capitaliste. Et dans le contexte de la crise dans laquelle nous nous enfonçons en réalité, faut pas croire tous les mensonges sur l'embellie, le retour de la croissance, etc. Tout ça, c'est faux. On s'enfonce dans la crise. Et dans ce contexte-là, eh bien, si la bourgeoisie veut accroître ses profits, vous pouvez être sûr qu'elle n'a qu'une solution. C'est d'aggraver l'exploitation, c'est de parasiter encore plus le travail des salariés. Parce que ces profits, elle ne peut plus les faire en attendant le développement des marchés, en attendant une extension de son chiffre d'affaires, en espérant trouver une nouvelle clientèle. La réalité, c'est qu'on est dans un système et des marchés qui sont saturés, où il y a une guerre entre les capitalistes qui est féroce, une concurrence qui est forcenée. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est se piquer les marchés les uns aux autres et nous le faire payer à nous, les travailleurs. Donc voilà, en réalité, l'offensive contre le monde du travail, c'est pas seulement Macron. Encore une fois, c'est une offensive qui est portée par tout le système. Et je dis ça parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup dans les classes populaires dire que il fallait bien voter, on a raté une occasion, il fallait bien voter, et puis beaucoup se disent si Mélenchon était élu, si c'était lui qui était au pouvoir, on n'en serait pas là. Eh bien, si, fondamentalement, on serait dans la même situation, parce qu'on serait justement confronté à la même rapacité patronale, à la même dictature de la finance, à la même offensive patronale. Et on se retrouverait avec Mélenchon président qui accompagnerait cette offensive contre les travailleurs, exactement comme Mitterrand en son temps l'avait accompagné, comme Jospin l'a accompagné, comme Hollande l'a accompagné. À partir du moment... À partir du moment où le président gouverne dans le cadre de la domination capitaliste, en respectant la propriété privée de la bourgeoisie, en acceptant la loi du profit, le marché, la concurrence, eh bien il se voue à servir les intérêts de cette classe, de la bourgeoisie. Comme le disait Lénine, le gouvernement, dans la société capitaliste, eh bien, c'est le conseil d'administration de la bourgeoisie. Et il ne peut pas représenter les intérêts des exploités. Ou les travailleurs, le monde ouvrier, arrache le pouvoir à la bourgeoisie, l'exproprie, met fin à la propriété privée sur les moyens de production, met fin à la concurrence, à la loi aveugle du profit, et réorganise l'économie en fonction de ses intérêts, ou nous laissons les choses telles quelles, le pouvoir dans les mains de la bourgeoisie, et nous, le monde ouvrier, nous reculerons, et l'ensemble de la société reculera, des décennies en arrière. L'enjeu d'ailleurs n'est pas que matériel, ce n'est pas seulement le chômage, la misère qui monte, la précarité, mais c'est aussi bien sûr toute cette décomposition de la société, ces rivalités impérialistes, ce sont ces bruits de guerre, c'est le bruit de guerre, je pense à la Corée quand je dis ça, mais ce sont les guerres tout court, au Moyen-Orient, c'est le terrorisme qui en est l'écho, ici aussi, dans les grandes villes des pays impérialistes. Donc la réalité, c'est que soit les travailleurs contestent la direction de la société à la bourgeoisie, ou alors la société court à la ruine. C'est cette conviction-là qui nous sépare de la politique des partis réformistes que sont aujourd'hui le Parti communiste français et la France insoumise de Mélenchon. Dans le mouvement ouvrier, il y a toujours eu des partis réformistes, des partis, des courants hein, qui acceptait l'ordre social capitaliste parce qu'il pensait pouvoir le moraliser, l'humaniser, le rendre plus doux aux exploités. Et donc, ils essayaient d'agir à l'intérieur même de ce système, de prendre des positions de façon à pouvoir, encore une fois, adoucir la situation pour le monde du travail. Nous, nous sommes un courant, communiste, révolutionnaire, qui défend l'idée que la société capitaliste doit être renversée et que la classe ouvrière constitue la force sociale qui peut le faire, par en bas, au travers d'une révolution ouvrière, c'est-à-dire au travers de la prise du pouvoir par les travailleurs eux-mêmes. Nous nous revendiquons non seulement des luttes que les travailleurs ont menées pour inverser le rapport de force avec le patronat et améliorer leur sort, mais nous nous revendiquons d'abord et surtout des combats que les ouvriers ont menés pour renverser le système capitaliste. Nous nous revendiquons de la Commune de Paris de 1871 et bien sûr de la Révolution russe de 1917, au cours de laquelle justement les travailleurs ont fait la démonstration de ce dont ils étaient capables. Parce que les travailleurs en 17, eh bien ils ont pris le pouvoir et ils s'en sont emparés. Et ils l'ont exercé pour construire une société tout autre, justement, qui ne soit pas fondée sur la propriété, qui ne soit pas une société organisée pour les riches, mais au contraire, qui réponde aux besoins de l'ensemble de la population, à commencer par les plus pauvres. Alors ce qui nous distingue du Parti communiste français, de la France insoumise, c'est ce but, cet objectif. Nous militons pour la révolution prolétarienne, mais c'est aussi une façon de militer au quotidien. Parce que les révolutionnaires, ce ne sont pas seulement ceux qui attendent le grand soir. Bon, d'abord, c'est pas le grand soir, la révolution, c'est pas le grand soir. Hein. La révolution russe, elle a mis 8 mois hein, pour finalement aboutir. C'est aussi des militants qui ont une politique au quotidien. Et en fait, au quotidien, eh bien, nous ne militons pas de la même façon non plus que le Parti communiste ou que la France insoumise. Contrairement à eux, eh bien, nous ne militons pas d'abord et avant tout sur le terrain électoral. Notre politique et notre militantisme sont tournés vers la classe ouvrière et vers les luttes que la classe ouvrière peut mener. Et comme nous ne cherchons pas de solution sur la base de ce système et dans le cadre institutionnel de la bourgeoisie, parce que nous nous refusons à nous intégrer à l'appareil d'État, eh bien nous n'avons aucun fil à la patte et nous sommes en mesure de soutenir inconditionnellement les travailleurs lorsqu'ils se battent sur la base de leurs intérêts de classe. Et nous sommes aussi pour, et nous pouvons faire en sorte qu'ils aillent jusqu'au bout de leurs possibilités dans ces différents combats. Je dis ça parce que dans l'assistance, il y a forcément des militants, des camarades plus anciens qui se souviennent hein, et qui ont en tête des épisodes où la direction du Parti communiste français demandait à ses propres camarades, aux travailleurs, de ne pas se mettre en grève, de ne pas protester, de ne pas trop remuer parce qu'il y avait des ministres au gouvernement et qu'il ne fallait pas les gêner. Je pense que beaucoup ici pourraient le dire mieux que moi, le raconter mieux que moi. Il faut aussi, oui, eh ben, écoute, tu pourras peut-être le dire tout à l'heure, mais prenez aussi ce qui s'est passé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le Parti communiste avait justement ses premiers ministres, pour la première fois, hein, avait des ministres au gouvernement. Eh bien, ces ministres, ils n'étaient pas du côté des travailleurs et sûrement pas du côté des luttes des travailleurs. Toute la politique du Parti communiste de cette époque, eh bien, elle peut se résumer dans la fameuse phrase de Thorez, qui est restée dans la mémoire collective, je crois, hein, « La grève est l'arme des trusts ». Et puis, eh bien, la direction du Parti communiste s'est chinée hein, à faire la morale aux travailleurs, aux ouvriers, hein, leur demander de ne pas trop dépenser d'énergie quand ils allaient danser au bal le samedi soir, parce que le lundi matin, il fallait bosser. Hein, et il fallait faire la production, la fameuse bataille de la production, hein, sans se préoccuper de ce que ça signifiait pour la santé et pour la vie hein, de millions de travailleurs à cette époque-là. Il fallait aligner les heures de travail. Alors voilà ce que ça donne, l'intégration effectivement au système de la bourgeoisie et à l'appareil d'État bourgeois. Et ce n'est pas que du passé. Ça fait bien sûr plusieurs années que le Parti communiste n'a pas de ministre. Mais ces positions de gestionnaire, par exemple dans les municipalités ou dans les départements, eh bien, les amènent aussi, hein, souvent, à se méfier des revendications des travailleurs. Et cela fait aussi belle lurette, hein, que même dans l'opposition, le Parti communiste ne donne plus comme perspective aux travailleurs d'inverser le rapport de force avec la bourgeoisie en comptant sur ses armes de classe. La perspective, c'est toujours la même. C'est celle de reconstruire la gauche politicienne, la gauche gouvernementale, l'union de la gauche et de bien voter aux prochaines échéances électorales. Et ce qui fait la différence fondamentale, au bout du compte, entre nous et les partis réformistes, c'est que nous plaçons notre confiance dans la classe ouvrière. Nous sommes convaincus que l'impulsion et l'énergie qui permettra de changer la société, de la transformer, viendra de la classe ouvrière. Et nous militons dans la classe ouvrière pour que celle-ci prenne confiance dans ses forces. Et nous sommes pour tout ce qui peut conforter cette confiance. C'est aussi la raison pour laquelle dans les luttes, y compris les plus petites, eh bien nous sommes pour que les travailleurs en lutte dirigent eux-mêmes leur propre mouvement. Nous sommes pour qu'ils s'organisent, nous sommes pour qu'ils discutent, nous sommes pour qu'ils décident eux-mêmes, que ce soit dans des assemblées générales, que ce soit dans des comités de lutte, dans des comités de grève. Dans tous ces combats, non seulement nous ne craignons rien de l'initiative des travailleurs eux-mêmes, mais nous la suscitons. Hein, nous voulons au contraire qu'elle soit la plus large possible et qu'elle soit la plus consciente possible. Pour nous, c'est une évidence. Nous pensons que la classe ouvrière est capable de diriger la vie sociale, de diriger son État, un État ouvrier, de réorganiser l'économie. Alors évidemment, nous pensons que les travailleurs sont capables de diriger leur propre lutte et qu'ils n'ont pas à attendre les conseils de professionnels de la négociation, qu'ils n'ont pas à attendre d'avocats spécialisés dans les mouvements sociaux. Hein, dans la vie quotidienne, on nous explique et on met dans la tête de la classe ouvrière qu'elle n'est pas capable de diriger, qu'elle ne saurait pas faire, et qu'il faut toujours s'en remettre à des spécialistes, à des gens qui sont expérimentés dans le domaine. Eh bien, nous combattons cela. Et c'est un des pires aspects, hein, du mouvement ouvrier, c'est de ne pas faire confiance justement à cette classe ouvrière. Et c'est de ne pas lui permettre de prendre les rênes, hein, au prétexte qu'il y aurait des risques à cela, au prétexte qu'il pourrait y avoir des débordements, au prétexte qu'il ne saurait pas faire. Nous disons au contraire, faisons confiance dans la classe ouvrière et dans l'action. Collectivement, oui, la classe ouvrière, elle fera son apprentissage et elle découvrira toutes ses forces, ce dont elle est capable de faire, et elle fera comme ça avancer la société. Alors évidemment, tout ce que je viens de dire là, ça signifie et ça nécessite de militer dans la classe ouvrière. Cela nécessite d'avoir un parti qui ait la préoccupation de s'implanter dans les entreprises, dans les quartiers ouvriers et de proposer une politique aux travailleurs. Ça encore, c'est une différence qu'il y a entre nous et par exemple la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon se situe dans le cadre du capitalisme. Hein, vous l'avez entendu, il n'est pas communiste, il ne pense pas qu'il faut renverser le capitalisme, il ne pense pas qu'il faut renverser la bourgeoisie. Mais c'est aussi un politicien qui est étranger à la classe ouvrière. Son problème, ce n'est pas d'armer la classe ouvrière, ce n'est pas de lui apprendre sa propre force, ce n'est pas de la conduire à agir par elle-même, ce n'est pas d'élever la conscience de classe des travailleurs. Eh bien nous, c'est exactement ça notre raison d'être. Nous militons pour que la classe ouvrière accède à la conscience que la tâche de transformer la société dépend d'elle et d'elle seule.
La classe ouvrière, les exploités représentent la force sociale qui n'a pas intérêt à la perpétuation de ce système. Et de la même façon que les travailleurs font aujourd'hui tourner toute la société, mais pour le compte des capitalistes et pour le compte d'une minorité, eh bien nous sommes convaincus qu'ils sauront demain faire tourner la société pour les intérêts collectifs de la grande majorité. Et encore une fois, aucune autre force sociale ne recèle cette force-là, cette force révolutionnaire et cette capacité de transformer et de reconstruire une autre société. Et pour conclure, eh bien dans le passé, il y a eu des grands partis qui ont défendu cette perspective-là. Il y en a eu. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il n'en existe plus. Nous sommes une petite organisation, mais c'est ce parti, justement, que nous voulons reconstruire. Alors, si vous en êtes d'accord, eh bien, il faut nous aider. Il faut nous aider à ce qu'il y ait des femmes et des hommes, justement, dans les entreprises, dans les quartiers populaires, partout où nous sommes, hein, pour défendre cette perspective, renverser le capitalisme et créer une société communiste. Merci, merci. Alors on va commencer le débat.
Oui, voilà, si il y a des camarades ou qui veulent prendre la parole, faire des remarques, poser des questions, hein, on va faire un premier tour et puis ensuite Nathalie Arthaud répondra.
Alors, écoutez, je suis dans un CAT et tout ça. Et c'est vrai que, bon, là, ça fait tous les ans que je suis à la fête de... J'espère que je ne suis pas filmée. Hein. Ah ouais, ça fait tous les ans que je suis à la fête de l'humanité, quasiment. Et je vois que, bon, comme on regarde tous les informations, j'ai participé à plusieurs manifestations et tout ça. Bon, bref. Hein. Et c'est vrai que c'est un parti que j'aime beaucoup. C'est un parti que j'aime beaucoup et j'ai toujours voté pour ces partis-là parce que j'estime que je ne comprends pas pourquoi on ne pense pas aux autres. Hein. Il y a assez d'égoïsme, il y a assez d'individualisme. Donc, on en a marre. Il faudrait refaire le monde. Et c'est pour ça que moi, j'apprécie beaucoup Nathalie Arthaud parce qu'elle ferait beaucoup de choses pour tout le monde. Et heureusement que là, ça m'a fait très plaisir de l'avoir saluée et même serré la main. Parce que c'est vrai que là, quand je vois les inégalités, les injustices, ce racisme, cette xénophobie, cette haine, c'est horrible, c'est horrible. Alors au moins, parce que c'est vrai que si les gens savaient apprendre à savoir vivre ensemble, dialoguer, vivre ensemble, la paix entre nous, que ce soit tout le monde, qu'il y ait un vivre ensemble, on n'en serait pas là. Voilà. Il n'y aurait pas eu tant de guerres, il n'y aurait pas eu tant de violences. Alors luttons contre ces fléaux qui nous nuisent des pieds jusqu'à la tête, du matin jusqu'au soir. Hein. Alors il faut qu'il y ait une solidarité, humanité, union et fraternité, égalité et liberté et sans violence. Et qui la sérénité et savoir vivre ensemble.
On va prendre une autre intervention.
Oui, bonjour Nathalie. Moi aussi je connais lutte ouvrière. Ma voix ne porte pas. Là, je ne vais pas dire la sympathie que j'ai parce que je les connais. Là, le gouvernement, il a décidé depuis quelques jours de prendre de l'impôt sur le livret A et l'assurance vie. Je voudrais savoir ce que tu en pensais. Merci.
D'autres interventions ?
Madame Arthaud, je suis du Nord. J'étais à la manif le 12 septembre. Excusez-moi. Bon, par contre, vous avez dit que Mélenchon, s'il arrivait au pouvoir, ça aurait été même austérité. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis de gauche, je fais de la CGT. je suis de Cambrai, mais qui voulait mettre à la place, qui voulait mettre à la place après de Macron? Vous avez bien compris. Donc, Mélenchon, c'était un socialiste rouge, radis rouge, cul blanc. Il a commis beaucoup d'erreurs. Mais si jamais qu'on met Madame Le Pen au pouvoir, qu'est-ce qu'il y a? Alors, pour qui il faut voter? Pierre Laurent, on n'en veut pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est débiné parti à la Réunion. Il a mis son oculistier. Bon, alors, si jamais un jour la gauche qu'elle arrive au pouvoir, pour qui qu'il faut voter? Pour qui il faut voter? Il y a Mélenchon, la mère Le Pen, moi je suis de gauche. Tout le monde a dit il faut voter Macron. Parce que les gens, ils ont un peu plus, ils ont eu peur. On n'a pas voulu voter Le Pen, parce que moi je suis de gauche. Alors moi j'ai voté Mélenchon. Alors moi je veux savoir pour qui il faut voter si un jour qui accorde des grèves, que Macron démissionne. Moi je veux savoir.
D'accord. Est-ce qu'il y a encore d'autres interventions avant que Nathalie Arthaud réponde? Bon, on va peut-être s'arrêter là pour le premier tour. Donc...
Alors, sur la première intervention, bien sûr, on partage la révolte que tu as exprimée là-dessus. Je suis d'ailleurs convaincue que cette révolte contre l'exploitation, contre la montée du racisme, les guerres, tout ce que tu as décrit, elle est commune à nous tous. Là-dessus, on est tous d'accord. On veut, effectivement, on est révolté par tout ça et on veut le changer. Bon, maintenant, toute la question, c'est comment on peut le changer? Et nous savons pertinemment que ça... c'est le résultat d'une politique qui est menée par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, par ceux qui contrôlent les moyens de production, les groupes capitalistes, ceux qui tiennent l'économie entre leurs mains. Quand vous regardez les guerres au Moyen-Orient, quand vous regardez toutes ces rivalités, elles ont toutes pour origine cette recherche justement de fric. De quelques-uns. Et donc le cœur du problème, c'est bel et bien ce capitalisme, cette domination d'une classe bourgeoise qui ne jure et qui ne dirige que pour son argent. Voilà. Et en face de qui? En face d'elle, qui y a-t-il en mesure de combattre? L'ensemble du monde du travail, des exploités, ceux qui sont démunis de tout moyen de production, qui sont obligés de vendre leur force de travail. Donc c'est sur cette force sociale-là qu'il faut compter. Et sur sa capacité justement à dire « ça suffit ». À dire « nous sommes capables, nous, de relever le gant, de nous battre et même d'être une alternative justement à la direction ». De la société. Donc c'est ça notre politique et c'est ça qu'on discute. Alors tu as évoqué les attaques sur le livret A, sur l'assurance vie aussi. Moi j'avoue, j'ai pas entendu l'assurance vie, mais il faut dire que comme il en annonce tous les jours, forcément c'est difficile d'être d'avoir toute la liste. Là c'est clair que le gouvernement il a une stratégie un peu blitzkrieg, la guerre est claire. J'y vais, j'attaque tout azimut et puis je vois. Je vois si justement en face il y a de la réaction ou si ça passe. C'est un petit peu ça. Mais effectivement, il attaque sur absolument tous les terrains. J'ai pas fait la liste parce que je pense que là-dessus on est d'accord. L'augmentation de la CSG, la baisse des APL, j'en oublie des meilleurs. Et puis de l'autre côté. Il va aller chercher 400 millions, je crois, d'euros sur les APL. Et puis de l'autre côté, il fait un cadeau de 2 à 3 milliards en vidant l'impôt sur la fortune de son contenu, en fait. 2 à 3 milliards. Donc on est confronté, oui, à un gouvernement qui va prendre dans la poche des plus pauvres, des travailleurs, pour encore faire des cadeaux aux plus riches. Là-dessus, c'est clair, il n'y a pas photo, et je ne crois pas que ça fasse discussion entre nous. La discussion, c'est celle que tu as posée, finalement. tu vas savoir pour qui il faut voter. Voilà. Eh bien, tu vas savoir pour qui il faut voter. Eh bien, tu vois, je vais te dire un truc. C'est que s'il y a une question qui ne doit pas te travailler, c'est bien celle-là. Voilà. Voilà. Justement, tu vois, ça fait des décennies maintenant que les partis qui parlent au nom des travailleurs, hein, ne posent qu'une question. Qu'est-ce qu'il faut voter aux prochaines élections ? Préparons-nous à mener la lutte électorale. Allez, allons-y. On prépare le parti pour gagner ces échéances. Et puis, comme il y a des élections tous les ans, ben c'est en permanence. Et on fait croire aux travailleurs que la politique, elle se résume à la question « Pour qui doit-on voter ?» Non. Si on croit que la politique se résume à ça, on est sûr de se faire avoir. Parce que ces gens-là, dont on dit qu'il faut absolument faire le bon choix, etc., ce sont des sous-fifres. Ce sont des sous-fifres. Ce sont des courroies de transmission. Il n'y aurait pas Macron, il y en aurait un autre. Regarde dans les autres pays, il n'y a pas Macron. Et il y a même en Grèce, il y a un mec qui s'appelle Tsipras, qui s'est fait élire avec tout un enthousiasme, en suscitant plein d'espoir, y compris à un niveau qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé même au moment de Hollande. Hein, vraiment, il y a eu des mobilisations, etc. Et les gens, ils en attendaient des choses de Tsipras. Il a été élu. Il est quoi, Tsipras, aujourd'hui ? Eh bien, il est la courroie de transmission des banquiers. Il est la courroie de transmission des financiers. Parce qu'encore une fois, même bien intentionné, même celui qui est un petit peu, qui s'inquiète un petit peu du sort des plus pauvres, etc., une fois qu'il est à la tête de cet appareil d'État, eh bien, c'est l'instrument de la bourgeoisie. Parce que dans la société, ceux qui dominent, ceux qui tiennent les cordons de la bourse, ceux qui font l'économie, mais c'est la bourgeoisie, c'est ce grand patronat, c'est eux qui prennent les décisions. Donc, ne cherche pas à choisir le sous-fifre. Alors, je termine, et puis après, on fera un deuxième cycle de questions. Et c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle j'ai dit, oui, pendant un an, on a eu un cirque électoral. On a fait croire aux travailleurs que c'était décisif. Hein ? Et puis au bout du compte, il y a eu du changement. Ils ont tout renouvelé. Les têtes. D'ailleurs, il y a plein de gens et aujourd'hui ils sont interviewés, on ne sait même pas qui c'est, parce qu'effectivement, ils ont renouvelé les têtes. Ah mais ça c'est sûr, les têtes, elles sont nouvelles. Mais la politique, c'est exactement la même. La politique, c'est exactement la même. Et voilà, c'est le grand piège. C'est le grand piège de ramener la politique toujours à ces séquences électorales-là. Alors, moi, oui, j'étais candidate à l'élection présidentielle. Mais j'étais candidate pour dire, je ne suis pas intéressée par le poste. Eh ouais, je suis là, mais moi, ce poste-là, il ne m'intéresse pas. Moi, je suis là pour que, justement, les travailleurs, ils disent, nous, on ne marche pas dans le jeu. Nous, on ne se laisse pas tromper. On ne choisit pas entre des prétendants, entre des prétendants qui ne visent qu'à être des serviteurs de ce système. Nous, on veut que les travailleurs s'expriment, disent qu'ils ne sont pas dupes, disent leur conscience de classe, leur conscience d'avoir à se battre contre la bourgeoisie, leur conscience d'être engagés dans un combat à la vie, à la mort. C'est ça, c'était ça ma présence dans l'élection présidentielle. Mais c'était sûrement pas dire que moi, arrivé, etc., à la présidence, j'allais changer les choses. Donc, non, encore une fois, et c'est vrai que ça explique plein de choses. Hein, pourquoi les gens vont voter aujourd'hui ? Bon, il y en a beaucoup qui s'abstiennent, qui voilà, n'attendent plus rien parce que, justement, hein, ils voient bien qu'on peut, quel que soit par le bout où on le prend, on se fait avoir. Mais pourquoi les gens vont voter ? Ben, ils vont voter parce qu'ils cherchent un aspirant crédible pour remplacer le précédent. Oui, ils cherchent ça. Mais ça, c'est vain. C'est une quête vaine. Ils sont interchangeables. Oh, mais ils ont des styles différents. Ils vont proposer des programmes différents. L'offensive de la bourgeoisie, elle passera peut-être par des biais différents. Il y a plein de manières de prendre dans la poche des travailleurs. Il y a plein de manières différentes. Il n'y a pas qu'augmenter la CSG. Hein. Il y a plein d'autres manières de faire. Mais au bout du compte, c'est toujours le même processus. Donc, le problème, c'est justement pas celui-là. Hein, le problème, il est que les travailleurs contestent le pouvoir de la bourgeoisie qui tient leur vie entre les mains,
qui tient, qui contrôle la vie de millions de salariés entre les mains et qui les conteste avec leurs propres armes. Parce que les travailleurs ne sont pas démunis. On nous fait croire que la politique, c'est l'élection tous les 5 ans. Et puis qu'entre tout ça, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ronger son frein, il faut attendre, baisser la tête. Ce n'est pas vrai. Les travailleurs, ils ont les moyens de faire de la politique au quotidien. Mais en comptant sur eux-mêmes, sur leurs propres armes, sur leur organisation, sur leur capacité à faire grève, à manifester, à se battre. Et nous, c'est cette politique-là que nous défendons dans la classe ouvrière. Voilà, on est attaqué, il faut qu'on s'organise sans attendre une échéance électorale, sans attendre de sauveur suprême, il faut qu'on s'organise et qu'on se batte sur nos intérêts.
Ça pas, ouais. Donc si d'autres camarades veulent intervenir, poser une question, dire leur désaccord aussi, pourquoi pas.
Bonjour. J'ai des difficultés un petit peu pour le français, mais quand même, je pense que je suis capable de discuter. Non, vous pouvez laisser, s'il vous plaît. Ben non, je peux le tien, j'ai la main, excusez-moi. Ben, je pense que la question, ça ne touche pas que la France. Surtout à partir des années 80, les gens ils parlent libéralisme. Mais je pense qu'il y a une politique d'ultra-libéralisme. Ils ont déjà essayé. Non, vous pouvez laisser, mais excusez-moi, ça me gêne. Mais c'est pas grave. Et voilà, je suis contre le règle. Ils ont déjà commencé. Je ne rentre pas dans l'avant. En Latinoamérique, en Argentine, au Chili, pour appliquer un programme ultra-libéral, il pouvait passer les syndicats, mouvement de gauche, tout ça. Et puis en même temps, il y avait le système de l'Union soviétique. Ils n'étaient pas autant libres. Après, alors stabiliser une société, détruire toutes ces organisations politiques, culturel ou dans tous les domaines. Ils ont passé en Angleterre avec Margaret Thatcher. Maintenant, il y a une Margaret Macron ou Emmanuel Thatcher. Ça ne change rien. Alors, on ne parle pas globalement sur tout le monde. On sait très bien que certains systèmes, ils sont devenus comme un chien et sans laisse. Ils sont tellement libres. Parce que pourquoi? Je ne parle pas comme vous avec votre argument. Travailleuse, il y a un changement de capitalisme et non de salarié s'est changé. Plutôt je préfère la classe populaire. Alors, il y a une coupure entre la classe populaire et ses partis politiques. Il faut chercher dans l'histoire du passé. Parce que l'Union soviétique, ça détruit le relève de révolution du XXe siècle. Je pense que maintenant, historiquement, la France, je suis France, je n'ai pas besoin d'une nation, je suis citoyen du monde, je suis un communiste libertaire. Alors, c'est une décision historique. Ce n'est pas la peine de parler Macron, Hollande, les autres. C'est une décision qui s'est prise par bourgeoisie de la France, bourgeoisie internationale. Alors, c'est quoi? Une destruction totale de tous les acquis sociaux et le retour vers au capitalisme 18e siècle. C'est ça le premier. Alors c'est une classe intelligente, c'est une classe unifiée. En face, les classes populaires sont divisées. Ces partis politiques sont divisés. Ces syndicats sont divisés.
Est-ce que tu peux juste accélérer que d'autres camarades puissent intervenir?
Je voudrais poser la question. Je ne suis pas un puriste de l'Église catholique. Nous ne sommes pas devant un moment historique d'une révolution sociale. Mais nous sommes devant une période historique. Si ce gouvernement-là, la loi du travail, c'est la première pierre importante. Une attaque totale, C'est pas nouveau, ça a commencé avec le Mitterrand, c'est parti comme ça, Kesterven. Ils ont fait une erreur, ça c'est une autre chose. Ils ont préparé leur tombe aussi en même temps. Alors, première chose, ça demande une réconciliation avec classe populaire. Ça demande une réconciliation avec classe salariale ou classe travailleur. Pour ça, il ne faut pas suivre une politique avec secteur. Alors, les syndicats sont divisés. Les partis politiques sont divisés.
Je crois qu'il va falloir passer à un autre camarade. Je suis désolé, tu pourras organiser un meeting si tu veux. Mais là, c'est celui de Nathalie Arthaud. Et si tu peux juste conclure en une phrase.
Un bloc historique qui lutte avec un bloc contre attaque bourgeoisie nationale, bourgeoisie internationale. Première question.
Non, mais là, ça va.
On va passer à quelqu'un d'autre.
Je vais essayer de synthétiser. Non. Oui, ne vous inquiétez pas. Si, vous êtes inquiet et vous avez raison. Bon. Donc, ma question est simple. Là, vous avez dit qu'il fallait faire confiance à la classe ouvrière, à laquelle d'ailleurs honnêtement je dois dire que je n'appartiens pas. Mais, non, j'ai un ancêtre communard, c'est mon seul titre de noblesse. Non plus. Et donc, j'ai une femme qui est roumaine et qui a fait la révolution, c'est la contre-révolution. Et il ne faut pas lui parler de communisme. Alors la question que je pose, c'est la suivante. Beaucoup de révolutions ont eu lieu, probablement avec des militants très sincères, des partis communistes. Tous, dites-vous vous-même, ont dégénéré. Il y a une analyse qui a été faite par Trotsky, c'est le phénomène bureaucratique. La question que je veux simplement poser, étant donné le coût sanglant que peuvent coûter les révolutions parfaitement légitimes en soi, c'est quels moyens prévoir pour que les choses, encore une fois, ne foirent pas. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en considération ?
D'accord. Est-ce qu'il y a encore un autre intervenant avant que Nathalie Arthaud réponde ? Non, vas-y alors.
Alors, sur la première intervention, je ne sais pas trop par quel bout le prendre. D'abord, je dois avouer que je n'ai pas compris exactement ce que tu nous reproches et la question que tu avais. Mais il y a quand même des choses dans ce que tu as dit. T'expliques que la bourgeoisie à l'échelle internationale, elle a toute une politique de s'en prendre aux intérêts des travailleurs. Bon, ça c'est pas nouveau, c'est pas les années 80, c'est constitutif même, c'est inhérent à la bourgeoisie. La bourgeoisie, elle ne vit, elle est entretenue par les travailleurs. Elle est entretenue par les travailleurs, elle ne vit que parce que nous là. Nous l'entretenons au quotidien, donc effectivement plus elle en veut, plus il faut qu'elle en fasse baver aux travailleurs, et ça c'est depuis que le capitalisme existe. C'est la lutte de classe, c'est la lutte de classe, le capitalisme c'est la lutte de classe. Et tu dis oui, quand il y avait l'Union soviétique, la bourgeoisie n'était pas autant libre, c'est en partie vrai. C'est vrai qu'avec l'Union soviétique, avec justement cette période historique qui a été inaugurée par la révolution russe, par cet élan des travailleurs et des paysans en Russie, il y a eu vraiment un espoir qui a été soulevé et qui a permis à plein de peuples, y compris de se battre, y compris de contester la domination impérialiste. Mais si la bourgeoisie elle avait moins les mains libres, c'était pas tellement parce qu'il y avait l'existence d'un État, l'Union soviétique, mais c'était parce que justement, il y avait des travailleurs, il y avait des peuples opprimés de par le monde qui se battaient qui se sont battus pendant des décennies, beaucoup, de façon radicale, déterminée. Et c'est ça qui, effectivement, retenait la bourgeoisie d'aggraver, de porter ses coups. C'était ça. Et je voulais aussi rebondir sur un des désaccords que tu as soulevé. Hein, tu as dit que tu ne te reconnaissais pas dans le terme de travailleuse, travailleur. Toi, c'est les classes populaires. Eh bien oui, ça fait une différence de taille, une divergence de taille entre nous. Parce que justement... l'ensemble pour nous du monde du travail, qu'on soit au chômage, qu'on soit en activité, ils ont un rôle fondamental dans la société. C'est ceux justement de tout fabriquer collectivement, de tout produire, de porter la société. Et c'est pas un détail, c'est pas, c'est justement, ça veut dire concrètement que cette société, on est là capable de la faire tourner sans ces bourgeois qui n'y sont pour rien dans la production. Vous prenez les grandes familles bourgeoises qui sont multimilliardaires, qui concentrent l'essentiel des richesses, ils ne font rien dans la production, ils sont inutiles. Tout peut fonctionner sans eux. Parce que justement, la classe des travailleurs, elle a une position dans la production, elle a une position dans la fabrication de richesses qui est irremplaçable et ça fait partie de notre force. Alors toi, si tu dis classe populaire, cette force-là, cette capacité-là de faire tourner la société, c'est comme si elle n'existait pas. Ben non, je suis désolée, ça constitue notre force et toute la possibilité justement de réorganiser la société autrement. Donc pour nous, c'est évidemment le monde du travail, la classe ouvrière. Encore une fois, j'y inclus bien sûr les chômeurs. Je ne veux pas commencer une grande discussion, mais enfin aujourd'hui on sait très bien qu'on est chômeur. Un jour, on est au boulot, le lendemain, on retourne au chômage. Donc tout ça, c'est des divisions qu'on ne doit pas accepter. On fait ensemble partie, effectivement, d'une classe sociale, la classe ouvrière. Voilà. Sur l'intervention effectivement du camarade qui expliquait que nous faisons confiance à la classe ouvrière, mais quand même on pourrait avoir des doutes. En gros, on pourrait avoir des doutes parce que tu as dit qu'il y a eu beaucoup de révolutions qui ont eu lieu, toutes ont dégénéré. Il y a eu le phénomène de la bureaucratie, beaucoup de sang, etc. Bon, alors d'abord, justement, nous... nous pensons qu'il n'y en a pas eu tant que ça, des révolutions ouvrières. Il n'y a pas eu tant de fois dans l'histoire où les travailleurs se sont retrouvés au pouvoir. Il y a eu la Commune de Paris. Les travailleurs, ils se sont retrouvés au pouvoir, mais parce que, en fait, la bourgeoisie l'avait lâché, le pouvoir. Ça n'a pas véritablement été, d'ailleurs, un combat pour le pouvoir, mais elle s'est retrouvée au pouvoir. Ça a duré 100 jours. Ça a duré 100 jours. Et puis il y a eu la révolution russe, où là, par contre, oui, la classe ouvrière s'est battue pour le pouvoir, l'a pris, et l'a pris à l'échelle d'un pays immense, dans une situation extrêmement difficile, même dans des conditions sans doute les pires qui soient. Ça a été pour nous la révolution prolétarienne. N'a pas eu tant que ça. Il y a eu celle-là. On fera un meeting le 20 octobre pour justement expliquer en quoi cette révolution russe, elle est unique dans l'histoire. Et qu'on ne peut pas la confondre avec ce qui s'est passé, par exemple, en Chine avec Mao, ou à Cuba, ou dans d'autres pays qui parlaient de révolution socialiste. On ne peut pas la confondre parce que ce qui s'est passé en Russie, ça a été un formidable élan révolutionnaire, une énergie qui s'est dégagée, qui a été dégagée par des millions de femmes et d'hommes, ouvriers, soldats, qui n'ont pas attendu d'en haut que de nouvelles institutions naissent, qui ont créé leurs propres organes de pouvoir, qui ont pris part à la direction de la société, qui s'en sentaient responsables, qui étaient intéressés à tous les aspects de la vie sociale et qui jouaient un rôle directement dans cette vie sociale. Et cette effervescence-là, ce pouvoir à la classe ouvrière, ça a existé effectivement en Russie pendant plusieurs années, au travers des soviets, au travers des comités d'usines. Et on peut regarder au travers des soviets de soldats aussi, sur le front, dans l'armée. Les travailleurs se sont érigés vraiment en classe dirigeante. Et pendant des années, c'est un fait unique dans le mouvement ouvrier, en réalité, à cette échelle-là. C'est un fait unique. Ça, je tenais quand même à le dire. Parce que tu peux regarder ce qui s'est passé en Russie au moment de Mao, ce qui s'est passé à Cuba, ça ne s'est pas passé comme ça. Il n'y a pas eu cette mobilisation, il n'y a pas eu ces organes qui ont été créés par en bas, cette préoccupation de la vie sociale qui a été partagée par des millions de femmes et d'hommes et qui ont été transformées par ça. Qui ont appris collectivement, qui sont devenus responsables collectivement de la société. Et ça, c'est... Voilà, nous, ça nous enthousiasme. Pour nous, c'est la preuve de ce que la classe ouvrière est capable de faire. Et ça, c'est un fait que, y compris le stalinisme après, le fait que cette révolution a été trahie, dénaturée, etc., ne peut pas effacer. Pour nous, c'est un acquis du mouvement ouvrier. Donc... Déjà, tu vois, le raisonnement de dire « il y a eu plein de révolutions ouvrières, elles ont toutes foiré », bah déjà, la question se ramène, il y a eu une révolution ouvrière dans un pays où tout était compliqué, dans une période après-guerre, etc. Et oui, cette révolution, finalement, eh bien, elle a reflué et elle a laissé, effectivement, la bureaucratie prendre le pouvoir et se substituer au pouvoir de la classe ouvrière. Mais tu vois, on ne peut pas déduire hein, de l'échec et du devenir de la révolution russe cette loi très générale que tu mettais en avant, hein, en disant, bah voilà, de partout où il y a eu des révolutions ouvrières, elles ont toutes foiré, donc elles foireront toutes demain. Non, il y a eu une expérience, la première, bah oui, qui a finalement dégénéré, mais pour nous, ce n'est pas la preuve qu'elles dégénéreront toutes. Du tout, du tout. Tu sais, même la bourgeoisie, elle en a fait des révolutions avant d'établir son système. Hein, et elle en a fait, elle a tâtonné, et elle a, y compris même cet argument de dire ça a foiré, on pourrait le retourner même. On pourrait dire, bon, bah, le capitalisme, lui, il s'est étendu à l'échelle de la planète, il a eu tout l'espace pour se développer qu'il voulait, il a eu des décennies pour faire ses preuves, et il a foiré de partout. Le capitalisme. Bah oui. Il a foiré de partout, parce qu'il a foiré dans les pays bah, les plus pauvres. Le capitalisme, c'est pas que les États-Unis, c'est aussi la Sierra Leone, c'est aussi la Côte d'Ivoire, et tu disais. Quel a été le coup sanglant de tout cela? Mais quel a été le coup sanglant hein, de la préservation de la bourgeoisie? Ben, ce coup-là, c'est effectivement des, hein, aujourd'hui encore, des millions de morts. Donc voilà comment nous on pose le problème. Alors maintenant, qu'on s'entende bien, justement, nous, ce qui s'est passé pendant cette révolution russe, c'est notre capital politique. Et on veut effectivement comprendre pourquoi les choses se sont passées comme ça. Je veux pas, c'est pas l'objet de cette discussion-là, mais en deux mots, quand même, hein. On pense, hein, avec Trotsky, hein, que effectivement la dégénérescence, eh bien, c'est le fruit d'un processus, hein, qui s'explique d'abord et avant tout par l'isolement de la révolution russe, par l'échec des révolutions en Allemagne, en Hongrie, en Italie. Parce qu'il n'y a pas eu que la révolution russe en 1917. Il y a eu une vague révolutionnaire à l'échelle de l'Europe. Et partout ailleurs, ces révolutions, elles ont été massacrées. Et elles ont y compris été massacrées par des gens qui se prétendaient socialistes, qui se prétendaient du côté de la classe ouvrière. Alors oui, les révolutionnaires russes, ils se retrouvaient isolés. Isolés dans un pays exsangue qui avait déjà payé cher la Première Guerre mondiale, qui l'a payé en plus parce que tous les pays impérialistes se sont ligués contre la révolution russe et ont tout fait pour l'étouffer, ont tout fait pour l'écraser, ont tout fait pour que, justement, elle foire, comme tu dis. Donc, la dégénérescence, c'est, en fait, dans cette lutte de classe, dans ce bras de fer qu'il y a eu, ça a été la défaite, au bout du compte, hein, de la classe ouvrière russe et paysanne, mais qui ont quand même montré ô combien hein, un degré de combativité et de conscience qui quand même reste encore une fois inégalé. Voilà.
Bon, est-ce que il y a d'autres intervenants, d'autres problèmes que vous voulez aborder ?
Bonjour à tous. Je voulais juste savoir, en fait, qu'est-ce qui différencie fondamentalement Lutte ouvrière du NPA ? Parce que je pense qu'il y a certains citoyens qui, parfois, doivent s'interroger. Je pense que même certains journalistes politiques ne savent pas très bien comment vous différenciez du NPA. Voilà, c'est juste ça.
D'accord. D'autres interventions ? Pas de regret. Bon, ben, on va laisser Nathalie Arthaud. Ah, attends, encore un camarade qui veut parler. Un soldat de l'armée rouge.
Je voudrais savoir, est-ce que le CDI est une spécificité française ? Est-ce que le contrat à durée indéterminée est une spécificité française ?
D'accord, ben on va laisser Nathalie Arthaud répondre.
Alors là, de la révolution, on tombe au CDI, là. L'atterrissage est brutal. Ben, le CDI, d'abord, bon, je ne sais pas ce que tu mets derrière le CDI, tu vois, mais enfin, là, tous les jours, on mesure combien le CDI, aujourd'hui... C'est devenu une coquille vide quasiment. Hein, une coquille vide, CDI, mais en fait on peut être viré quand même du jour au lendemain. Hein, regarde, maintenant ils ont inventé même les CDI de chantier. Alors en fait c'est des CDD sans prime de précarité. Enfin, donc tu vois, tout ça, c'est des. Comment dire ? Il faut faire attention, hein, on dit les droits avec un grand D, le CDI avec un grand C, etc. La réalité, c'est que si on n'est pas là, hein, pour imposer, de garder son boulot et pour se battre pour ça, eh ben voilà, on se fait avoir. Donc, c'est à un moment donné... le fruit d'un rapport de force, hein, le CDI, le CDD, les différents droits, le code du travail, etc. Hein, mais ce n'est pas en soi quelque chose... De toute façon, pour les travailleurs, il n'y a jamais d'acquis. Hein. Tout ce qu'ils ont gagné à un moment donné, hein, ben, la bourgeoisie, elle cherche à le reprendre. Et des fois, elle laisse les mots, mais elle vide tout ça de son contenu. On peut aller, je vous conseille d'aller sur le stand des camarades de PSA de Poissy, hein, qui aujourd'hui sont menacés de licenciement parce qu'ils sont accusés par par la direction de Peugeot, d'avoir menacé des chefs, de les avoir menacés physiquement, etc. Hein, donc il y a plein de façons, hein, de virer les travailleurs. Ben, il y a Nokia, bien sûr, et puis bon, on va pas faire la liste, il y a plein de façons. Donc attention, tout ça, c'est aussi le fruit d'un rapport de force à un moment donné. Voilà. Et il n'y a pas de spécificité française à ce niveau-là. Hein, les problèmes de rapport de force, ils se posent aux travailleurs dans tous les pays. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui nous différencie du NPA ? Bon, bah, t'as quand même eu toute une campagne électorale pour te faire une idée, quand même. Parce que, bon, bien sûr, on disait des choses en commun, on dénonçait un certain nombre de choses un peu de la même façon, et en même temps, on n'avait pas tout à fait les mêmes axes d'intervention. Voilà. Pas tout à fait les mêmes axes d'intervention, pas tout à fait la même façon de dire les choses. Et... voilà, en particulier, bon bah nous, d'ailleurs, on nous le reproche beaucoup à Lutte ouvrière. Hein, on nous dit, mais vous, Lutte ouvrière, vous ne vous intéressez qu'aux travailleurs. Vous ne parlez que de l'exploitation. Vous ne parlez jamais de l'écologie, vous ne parlez jamais du féminisme, vous ne parlez jamais du racisme, vous ne parlez jamais des guerres, etc., etc. Bon, donc on nous le reproche parce que juste, bah, le NPA, lui, justement, hein, il a toutes ses cartes. Il est multicarte de ce point de vue-là. Hein, et il peut comme ça brasser large, toucher large. Bon, mais nous justement, on tient à dire que toutes ces oppressions qui découlent du capitalisme aussi, tous ces problèmes, l'écologie, etc., au bout du compte, ils se résument hein, à ce problème du pouvoir de la bourgeoisie. Et il se résume au combat que la classe ouvrière elle est capable de mener ou pas. Donc effectivement, nous choisissons de concentrer toutes nos interventions et de mener notre politique vis-à-vis de la classe ouvrière, de ses intérêts, de sa capacité à se battre, de sa conscience de classe. Voilà. Donc effectivement, on se revendique, hein, on se revendique effectivement du pouvoir des travailleurs. Pour nous, on se revendique de la révolution prolétarienne, de la révolution ouvrière et du communisme. Voilà, parce que y compris le NPA, parmi ses militants, il y a un tas de militants qui ne se revendiquent pas du communisme, par exemple, ou de la révolution prolétarienne. Pour nous, hein, si on veut être conséquent, si on veut être conséquent, oui, bien sûr, il faut mettre en avant, il faut défendre toutes ces perspectives-là. Il faut militer pour redonner de la force, justement, aux idées de lutte de classe. Parler de l'écologie, il y en a qui savent mieux faire que nous. Parler du féminisme, etc. Mais voilà, la lutte de classe, la force des travailleurs, sa capacité, etc., ça, c'est notre choix fondamental. Et il n'y a que nous, au bout du compte, hein, pour le défendre aussi clairement que ça. Voilà, donc, bien sûr, avec les camarades du NPA, il y a plein de combats en commun, hein, mais encore une fois, on est très proches par plein d'aspects, et en même temps, il y a de ces différences-là. Et puis, vous irez discuter, hein, y compris par rapport au mouvement ouvrier, par rapport à la révolution russe. Bon, nous, on a la discussion, on l'a eue hier, hein, mais nous, on se revendique complètement du parti bolchevique. On se revendique complètement du programme, de la politique de Trotsky, de la politique de Lénine, de celle de Marx. Pour nous, si nous sommes capables, de faire vivre cet immense capital politique qu'ils nous ont légué. Hein, et si on arrive à construire un parti autour de ça, eh bien oui, on aura le parti révolutionnaire qui sera capable demain de faire gagner la classe ouvrière quand elle se révoltera. Voilà.
Bon, on va s'arrêter là pour le débat. On peut continuer en plus petit comité. Alors, je vous donne quand même l'information. Bon, la plupart, vous la connaissez, mais on organise un meeting justement sur la révolution russe pour changer le monde, les travailleurs au pouvoir. C'est le 20 octobre à 20h30 à la Mutualité. Et puis, tous ceux qui veulent continuer à discuter, laisser leurs coordonnées à des camarades ou à la table de presse, lire nos publications, vous pouvez en profiter et bonne fête à tous.